Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à cette causerie pédagogique. Moi, j'enseigne. Le but, c'est très simple, c'est de vous donner un appui à vous, les enseignantes et les enseignants des écoles de langue française de l'Ontario. C'est de vous aider à améliorer votre pratique d'enseignement. Cette fois-ci, on parle d'apprentissage socio-émotionnel. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ça et aussi comment c'est important pour vos élèves et comment vous pouvez les guider à travers tout ça. Moi, je m'appelle Vincent Poirier. Je suis ici pour animer et sûrement aussi pour découvrir que hey, l'apprentissage socio-émotionnel, j'en ai besoin, mais je suis surtout ici pour donner la parole à nos deux fantastiques invités. Je commence avec Julie Séguin-Mondou, qui est consultante en mathématiques. Julie, tu as été enseignante, conseillère pédagogique, tu as une passion pour les maths. Tu es présidente de l'AFEMO, donc l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. Donc Julie, tu es une passionnée des maths.
Absolument. Et la pédagogie en général également.
Et qu'est-ce qui t'attire tant dans les mathématiques?
C'est que quand j'étais petite ou plus jeune, j'ai appris beaucoup de mathématiques, mais je ne les ai pas comprises. Donc, ma passion, c'est la pédagogie, comment on peut enseigner les mathématiques afin que les élèves les comprennent. Les apprennent, mais ils les comprennent pour qu'ils puissent jouir de la beauté des mathématiques et non seulement apprendre des formules puis des choses moins plaisantes.
Et c'est là que le socio-émotionnel devient très, très important, je pense.
Exactement.
Notre deuxième invité, Nadine Taillon, qui est enseignante à l'École d'application du consortium Centre Jules Léger. Nadine, tu es enseignante avec des élèves de 7e et 8e année qui ont des troubles graves d'apprentissage. Donc, toi aussi, j'imagine que le socio-émotionnel, c'est très important dans ta classe.
Exactement. Les élèves ont vécu des situations très difficiles dans le passé parce qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage, comme tu le dis. Et ici, ils sont au Centre Jules Léger, au consortium Centre Jules Léger pour apprendre des stratégies pour être capable de mieux réussir.
Il y a beaucoup d'intérêt présentement autour de l'apprentissage socio-émotionnel parce que justement, ça favorise le bien-être des élèves, leur capacité d'apprendre, leur résilience. Je pense que ce serait le fun, vous serez d'accord avec moi, si tous les élèves pouvaient mieux identifier puis gérer leurs émotions, celles des autres, s'adapter au stress, aux défis. En fait, ce serait fun si tout le monde arrivait à faire ça. C'est important à l'école, mais c'est important dans la vie en général aujourd'hui. Donc, quand vous allez parler, je vais prendre des notes. OK? Ça va pour vous, ça? Julie, ça a l'air de quoi l'apprentissage socio-émotionnel en salle de classe?
Mais d'abord, j'aimerais souligner le fait que finalement, on parle explicitement dans deux programmes cadres de l'Ontario de l'apprentissage socio-émotionnel, soit dans le programme cadre d'éducation physique et santé et le tout nouveau, celui qui est arrivé en 2020, le programme cadre mathématiques. Donc, j'aimerais au moins souligner que finalement, je suis heureuse que ce soit là, que ce soit devant dans nos documents officiels du ministère. Puis, je pense que cela démontre vraiment l'importance du rôle de l'apprentissage socio-émotionnel dans nos écoles. Puis, j'aimerais aussi dire que pourquoi tout d'un coup on voit ça dans nos programmes, mais c'est que on a plusieurs preuves maintenant qui nous disent que l'apprentissage de certaines habiletés socio-émotionnelles a tellement un grand impact sur l'apprentissage de nos élèves. Donc, pour revenir à ta question, il faut d'abord que l'enseignant...
Et toi, tu as de répondre en politicienne, là, je te pose une question, mais tu t'en vas ailleurs complètement,
c'est ça? Non, mais je disais que j'étais contente et heureuse que ce soit là explicitement, parce que ce n'est pas du nouveau. Je pense qu'on en faisait déjà d'enseignement ou de la... On allouait l'apprentissage socio-émotionnel avec nos élèves, mais là, on peut aller mettre le doigt dessus. On peut être explicitement dire, voici dans le programme cadre, on le dit, on peut aller l'observer. Donc, c'est vraiment, comme tu disais, Vincent, c'est d'offrir aux élèves des occasions pour favoriser leur bien-être, pour qu'ils soient bien, pour bâtir des bonnes relations enseignants-élèves. Tout ça dans le but, on veut que les élèves s'épanouissent, on veut que les élèves vivent des succès. Donc, pour résumer ça, ça a l'air de quoi? Dans une salle de classe, mais ça a l'air du mois de septembre, dans une année scolaire. Parce qu'au mois de septembre, c'est là qu'on bâtit nos relations avec nos élèves, c'est là qu'on bâtit notre culture, on a un climat de confiance. Donc, pour moi, ça a l'air de quoi en salle de classe? C'est le début de l'année. parce que on passe toujours par l'affectif avant d'arriver à l'académique. Donc, avant de commencer à enseigner, faut bâtir cette relation de confiance et de respect avec nos élèves. Donc, je me suis toujours dit depuis longtemps, depuis mes débuts d'année, faut que les enfants se sentent aimés, se sentent valorisés pour qu'ils veulent avoir le goût d'apprendre. Donc, passons par l'affectif, les émotions, avant de s'en aller trop vite dans l'académique. Donc, pour moi, c'est ce que ça a l'air, le mois de septembre.
Ah, Nadine, je te voyais dire oui de la tête. Tu es d'accord avec ça?
Tout à fait d'accord. Julie, c'est une belle façon de le décrire parce que le mois de septembre, c'est un mois important en éducation. C'est là qu'on tisse, hein, qu'on bâtit les liens, qu'on tisse les liens avec nos élèves. Mais je dirais aussi que même, c'est d'amener nos élèves tout au long de l'année à mieux se connaître, à mieux connaître leurs forces, à mieux connaître leurs besoins et qu'ils puissent s'épanouir, comme tu l'as mentionné, mais ils vont s'épanouir en se connaissant, hein, en apprenant à se connaître. Je dirais aussi que c'est en leur présentant des résolutions de problèmes, des problèmes authentiques, que ce soit dans n'importe quelle matière, mais ça peut aussi être des situations qui ont été vécues sur la salle, dans la salle de classe ou dans la cour d'école. Aussi de prendre les situations d'actualité puis de discuter avec nos élèves de certaines choses qui se passent dans l'actualité pour être capable d'avoir des discussions à savoir de traiter la confiance en soi, l'estime de soi, les stratégies de prise de parole, les stratégies d'écoute aussi en communication orale, toutes ces choses-là, ça rentre de ce côté-là et ça nous permet de travailler le développement socio-émotionnel de nos élèves.
Ah, j'aime ça, t'es rentrée dans le concret, vraiment. Est-ce que vous avez d'autres exemples de choses qu'on peut faire avec nos élèves pour développer ces habiletés-là?
De mon côté, nous autres, les élèves, on leur permet, faut vraiment qu'ils apprennent à se connaître, mais il faut aussi qu'ils apprennent à réaliser qu'ils ont des besoins. Puis des fois, quand on est en train de travailler, des fois, on a un besoin de prendre une petite pause. On a besoin d'aller prendre une petite marche dans le corridor parce que notre cerveau est comme en surchauffe, puis de juste d'être conscient qu'on a besoin d'une petite pause, puis de partir 2 minutes va faire en sorte que ça va nous redonner l'énergie. C'est permis. Les élèves le demandent et c'est encouragé. Alors, qu'ils apprennent leur fonctionnement et un peu développer un peu de la résilience, trouver des stratégies qui nous permettent de persévérer.
Julie, avais-tu d'autres choses à rajouter sur ça?
Disons plus concrètement, c'est ça, quand j'étais en salle de classe avec les élèves, pour développer, tantôt je faisais référence à développer le climat de confiance et de respect. Comme enseignante en salle de classe, c'est tellement important d'accueillir les élèves au début de la journée. Ça fait que je me mettais toujours à la porte, puis j'accueillais, puis là avec la pandémie, mais en tout cas, je me mettais à la porte, puis je donnais une bonne poignée de main serrée à chaque élève, puis je leur disais j'étais contente de les voir. Ça fait que c'était déjà au début, ils se sentaient aimés, ils se sentaient accueillis. Pour développer ce climat de confiance-là, pour qu'ils soient à l'aise dans leur apprentissage socio-émotionnel, qu'ils sentaient qu'ils faisaient une différence dès l'arrivée et dès le début de la journée. Puis parfois, j'avais déjà lu, ce qui m'avait frappé, c'est que parfois, c'est le seul moment un à un qu'on peut avoir avec l'élève, c'est le matin avec sa poignée de main. Donc, ça peut être au moins ça. D'autres choses concrètes que je faisais avec les élèves pour travailler, l'apprentissage socio-émotionnel, j'avais instauré ce qu'on appelle un conseil de coopération. Puis c'est basé sur un livre Daniel Jasmin qui parle d'une rencontre hebdomadaire. Donc on fait une rencontre hebdomadaire avec nos élèves dans laquelle on discute, on négocie avec les élèves, on résout des conflits. Les élèves partagent des inquiétudes, parlent de leur peut-être des situations de stress, puis on met en valeur aussi des bons gestes. Fait que ce conseil de coopération que je faisais de façon hebdomadaire, puis je me souviens c'était le vendredi, il fallait pas manquer parce que les élèves le demandaient. Les élèves avaient un sens d'appartenance, puis on pouvait vraiment parler des fois des situations quand même assez conflictuelles ou tu sais, où est-ce qu'on avait du stress, comment gérer ça. Donc, je vois vraiment ça comme une bonne stratégie à instaurer dans nos salles de classe pour l'apprentissage socio-émotionnel.
C'est comme un petit moment avec un thérapeute, là, quasiment, là. C'est fou.
Oui, puis il y avait des petites enveloppes où est-ce que je veux féliciter quelqu'un ou je veux parler de quelque chose qui me dérange. Donc, les élèves, on amenait ça au conseil, puis le conseil ensemble, donc tout le monde était valorisé, puis ça fonctionnait vraiment bien à ce niveau-là. Si je peux ajouter ma petite touche avec ma passion des maths, c'est que pour les mathématiques en particulier, c'est vraiment essentiel de discuter avec les élèves. Il y a des vidéos, il y a des ressources qui existent au sujet de ça, mais de dire aux élèves, tout le monde peut apprendre les mathématiques. La recherche sur le cerveau démontre que tout le monde est capable. Puis, parce que certains élèves viennent à l'école parce qu'ils ont des parents qui ont dit, ben moi, je suis pas bon à l'école, toi, peut-être, tu seras pas bon ou tu seras pas bonne. Donc, c'est quelque chose à défaire. Puis, il faut, à la première rencontre de parents, dire aux parents de ne jamais dire ça à leurs élèves. Ça peut avoir un effet vraiment néfaste. Et puis, de dire aux élèves que faire des erreurs, donc, tout cet apprentissage socio-émotionnel-là autour des erreurs, c'est correct. Faire des erreurs, c'est signe d'apprentissage. Donc, il y a des activités concrètes qu'on peut faire avec les élèves pour développer cette mentalité de croissance-là. Puis, parler aussi, c'est quoi être bon en mathématiques? Donc, enlever cette anxiété-là, ce stress-là, que les maths, ce n'est pas un signe de vitesse. Puis, on a des bons exemples de mathématiciennes et mathématiciens qui se sentaient stupides à l'école parce qu'ils étaient lents, mais sont devenus des mathématiciens et mathématiciennes parce que ça leur prenait du temps pour jongler les idées. Donc, tout ça, puis des paroles cruciales à dire à nos élèves, c'est « je crois en toi, tu es capable ». Ça peut vraiment aider tout l'apprentissage socio-émotionnel. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire en salle de classe pour eux.
C'est fou, c'est vraiment de faire en sorte que l'étudiant, l'élève se sente bien, il sera en meilleure position pour apprendre ensuite, tout simplement.
Absolument.
Tu parlais d'erreurs tantôt, Julie, ce qui mène souvent à avoir besoin de résilience. Hein? Avez-vous déjà parlé de résilience avec vos élèves? Comment on transmet ça, la résilience? Nadine?
Nous, ce qu'on a fait, ben, on vient de vivre de deux différentes activités dans les dernières semaines. On a fait la marche Terry Fox. Alors, on a présenté Terry Fox aux élèves et on leur a fait comprendre ce que c'était la résilience en étudiant sa biographie, ce qu'il avait fait et comment il avait fait ça et tout ça. Les jeunes ont été vraiment épatés et vraiment émus de son parcours, de sa détermination. Et ils ont compris que c'était un exemple de résilience parce que quand on a une jambe d'amputée et qu'on décide qu'on va courir des marathons à tous les jours pour traverser le Canada, c'est tout un exploit. C'était vraiment pas quelque chose qui était facile à faire. C'est déjà pas facile de courir 5 kilomètres quand on en court 42 chaque jour. C'est une autre histoire.
Pourquoi c'est important, Julie, que les jeunes développent cette capacité-là de résilience?
Je pense que la résilience fait partie de notre vie. L'autre exemple qui me vient en tête avec les élèves qui les intéressent beaucoup, c'est les Jeux olympiques, de parler de la résilience des athlètes, de prendre des exemples de choses qui leur ont arrivé, puis de voir que tout le monde, même des gens qui sont des vedettes, vivent des moments de où est-ce que la résilience a un rôle tellement important. Donc, de faire tous ces liens-là, puis je trouve que c'est vraiment des bons moments de discussion pour animer avec les élèves, afin qu'ils voient des exemples concrets, puis de voir aussi des modèles, comment ils se sont sortis de ces situations-là, pour qu'eux puissent faire des liens, puis dire, moi aussi, je vais être capable de sortir de ma situation lorsque je vais y faire face.
Oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est la preuve claire que tout ce qui est socio-émotionnel, c'est important à l'école, mais ça va nous suivre tout le long de notre vie. Et en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant et enseignante, je pense que c'est extrêmement important aussi. Julie, Nadine, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et je pense que vous l'avez très, très bien décrit et vous l'avez très bien expliqué. Alors, merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, si vous cherchez d'autres appuis, d'autres conseils, je vous dirige vers le site moijenseigne.ca. Le but, c'est vraiment d'offrir un accompagnement sur mesure aux enseignantes et aux enseignants franco-ontariens. Là-dessus, il y a d'autres causeries pédagogiques comme celle-ci, mais qui va parler de d'autres sujets. Il y a des vidéos d'auto-formation, des capsules pédagogiques, un service de mentorat et un service d'appui avec un numéro de téléphone où vous pouvez appeler et parler à quelqu'un si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Tout ça, c'est au moijenseigne.ca. Nadine, Julie, merci beaucoup. Je m'appelle Vincent Poirier. À la prochaine.